Coucou, c'est Victor. Cet épisode a été produit grâce à vos dons. Comme un poisson dans l'eau est un podcast indépendant et sans publicité. Alors si vous voulez qu'il continue à exister, et que vous avez les moyens bien sûr, s'il vous plaît, abonnez-vous en suivant le lien dans la description. Un grand merci à toutes les personnes qui le soutiennent déjà et lui permettent de rester accessible et gratuit pour tous. Épisode 25, troisième partie. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch, et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Dernière partie de cet entretien très riche, avec Sandra Guimaraes, où on soulève une question difficile, qui est souvent opposée à l'antispécisme. C'est la question du rapport à certaines pratiques des populations indigènes, notamment de chasse ou de pêche. Mon invité met bien en évidence tout ce que cette pseudo-objection charrie de racisme, d'essentialisation et de romantisation vis-à-vis des peuples originaires. J'aimerais bien qu'on s'arrête ensemble sur un point, puisque au sein de Louvre, vous avez aussi mené la lutte aux côtés des populations indigènes notamment, ou qui sont opprimées. Peut-être qu'on peut juste rappeler rapidement à quel point elles sont opprimées au Brésil. On leur a pris leurs terres pour le bétail et le soja. Beaucoup de membres de peuples qu'on dit isolés, c'est-à-dire qui n'avaient jamais rencontré de population non indigène, sont au fil des années morts de maladies du fait des contacts qui les ont contaminés avec d'autres personnes qui venaient sur leurs terres. Une partie travaille comme main-d'œuvre exploitable dans les abattoirs quand elles sont précaires. Beaucoup souffrent des pollutions, des déchets d'abattoirs qui sont proches de leur territoire, ou des pesticides dans les champs cultivés de monocultures autour de leur terre, voilà, pour planter le décor. Et ça soulève quand même, je trouve, des questions extrêmement complexes, la convergence en fait avec ces luttes. Peut-être que cette alliance va pas forcément de soi, d'un point de vue antispéciste, du fait de l'existence de pratiques de chasse et de pêche de ces peuples, donc en fait des pratiques spécistes, de fait. Et justement, c'est quelque chose qui est parfois, mais en fait souvent, opposé aux antispécistes, comme pour les mettre sur la sellette, en leur disant « mais vous allez quand même pas aller dire aux communautés indigènes d'arrêter leurs pratiques traditionnelles ». Et donc pour montrer en fait que le projet antispéciste ne tiendrait pas la route, parce qu'il peut pas concerner tout le monde, ou bien au contraire, qu'il serait implicitement raciste et irrespectueux de certaines pratiques culturelles. Alors, comment est-ce qu'on navigue cette question extrêmement complexe quand on est antispéciste, d'après vous ?
C'est vraiment difficile. Mais pas impossible. Mais je pense que c'est difficile parce que on regarde la chose d'un angle qui est pas le bon. Bon, si l'antispécisme pour toi c'est d'être vegan, oui, donc du coup ça clash, parce que si ton but c'est vraiment de véganiser la planète, moi je vois pas la chose comme ça. Je pense que mon objectif c'est un monde sans domination. Et donc ça peut paraître redondant, c'est là, je dis la même chose deux fois, mais c'est pas du tout la même approche, parce que si on part sur la base de on veut un monde sans domination, déjà on peut faire ces alliances-là, et ensuite on dit ok, donc les indigènes chassent et pêchent, mais qui est le moteur de l'exploitation animale au Brésil et dans le monde? Est-ce que c'est vraiment des peuples indigènes qui sont en train de s'enrichir avec l'exploitation animale? On n'a pas non plus, je disais tout à l'heure que les paysans sans terre, les paysans et les paysannes sans terre ne vendent pas de la viande, tu ne vas pas trouver de la viande venue des communautés sans terre, du MST, dans leurs magasins. Tu ne vas pas trouver non plus des poulets élevés par des peuples indigènes dans les supermarchés. Non, c'est vraiment de la subsistance. Donc il y en a qui élèvent des poules même, qui vont chasser, pêcher, mais qui élèvent aussi des volailles pour leur consommation personnelle. Et donc là, tu te dis, il y a cette force destructrice, l'agro-business, le capitalisme, qui est en train de couper toute la forêt, de désertifier les sols, de perpétuer le génocide indigène. Et vraiment, tu vas te focaliser sur le fait que les indigènes pêchent. Et le truc, c'est que la plupart de personnes ici en France qui me sortent ça, c'est des gens qui mangent des animaux. Et mon envie, c'est de dire, mais t'es indigène, toi? Enfin, tu as pêché ton poisson là, ou tu l'as acheté à Franprix? Et c'est un peu de tokeniser les indigènes, de dire, parce que les indigènes pêchent, moi...
Pour en faire un argument contre l'antispécisme.
Oui, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. L'année dernière, dans cette grande tournée politique que j'ai faite au Brésil pour rencontrer les collectifs, j'ai rencontré le collectif Vein d'Amazonie, qui ils sont à Belém, Et j'ai interviewé une de camarades du collectif, Michel, qui a dit, mais les gens qui font ce genre de critiques, est-ce que ces personnes sont ici en train de construire la lutte avec les indigènes? Et donc, on arrive à cette absurdité où la personne qui a des pratiques spécistes va me dire oui mais les indigènes pêchent donc l'antispécisme n'a pas de sens, tout en mangeant son poulet qui a été nourri au soja planté sur les territoires indigènes. Et t'es là, mais tu veux juste une excuse pour garder ta domination sur les autres espèces. C'est juste ça. Donc le but n'est pas de véganiser les peuples indigènes tant qu'on est sous le capitalisme. Tant qu'il y a des entreprises comme la GBS qui tue 75 000 vaches par jour, on n'a rien à faire dans les communautés indigènes, on ne va pas aller leur dire. Au contraire, on va se battre pour préserver. C'est grâce aux communautés indigènes et qui l'emballent aussi qu'on a un corps de la forêt au Brésil. Sans ces personnes-là, on n'aurait plus rien. C'est parce qu'elles se battent pour défendre la forêt qu'on a encore cette forêt-là. Donc franchement, la question de est-ce que la chasse, la pêche, surtout la pêche chez les gens indigènes, ça, c'est un argument valable pour détruire la lutte antispéciste, c'est ridicule. C'est vraiment enrageant, comme j'ai dit, c'est les mêmes personnes qui vont ensuite manger un fromage d'une vache qui a été nourrie au soja, qui a détruit les terres indigènes. Donc non, notre projet n'est pas de véganiser les indigènes, c'est de détruire le capitalisme, de sortir de l'exploitation animale au niveau industriel, et seulement là, à ce moment-là, quand on aura changé les bases matérielles de la société, on pourra penser à ces choses. Et c'est aussi raciste dans le sens où on essentialise les peuples indigènes comme si ils étaient incapables de changer. Comme si ils étaient figés dans le temps. Parce qu'ils ont toujours pêché, ils vont toujours pêcher. Donc c'est très raciste pour moi. Et c'est très colonisateur aussi comme façon de penser. Ces personnes ne vivent pas dans une bulle hermétique, à part les peuples qui n'ont jamais eu de contact. Il y a déjà des personnes indigènes qui sont antispécistes. Et rien ne dit que dans ce monde-là, quand on sera sorti du capitalisme, qu'il n'y aura plus JBS et plus Nestlé, et qu'on aura fait une réforme agraire populaire, rien ne dit que ces personnes ne vont pas avoir d'elles-mêmes ce genre de réflexion, se poser des questions. Donc c'est penser que les peuples indigènes ne peuvent pas changer, qu'ils sont figés dans l'histoire, et ça c'est raciste.
Oui, il y a une forme en fait parfois d'idéalisation même des populations traditionnelles, de romantisation complète de leur mode de vie qui est idéalisé par opposition au modèle absolument de la nécropolitique comme vous l'avez dit, mais en fait il y a aussi des risques à trop idéaliser et d'essentialiser au final.
Surtout quand c'est pour justifier tes pratiques coloniales,
oui.
Pour justifier tes pratiques spécistes. Ça a un but, c'est instrumentaliser les peuples indigènes pour ne pas sortir de tes pratiques de domination et d'exploitation.
Ça ne revient pas non plus à nier que, effectivement, ces pratiques sont spécistes. C'est ça, on a le droit, en fait, de penser une complexité, une interconnexion des formes de domination, des rapports de pouvoir. C'est-à-dire qu'on peut à la fois souffrir d'un racisme et d'une exploitation gigantesque quand on est indigène, et soi-même être auteur d'oppression sur d'autres animaux, par exemple.
C'est un débat qu'on a au Brésil, au sein du mouvement antispéciste, anticapitaliste, décolonial, donc dans les collectifs. Il y a quelques personnes du mouvement qui vont dire non à leur pratique, leur relation avec les autres animaux est tellement éloignée de ce que nous on connaît ici que on peut
pas dire.
Ça
n'a tellement rien à voir avec ce qu'on décrit en général quand on parle de spécisme.
Ça n'a rien à voir, c'est pas du spécisme. Mais la plus grosse partie d'entre nous est d'accord pour dire que les gens qui vont dire ça ont quand même une vision aussi romantisée des indigènes qui pensent qu'ils sont dans la forêt
dans
avec des flèches.
Cette idée du respect, c'est ça
Oui, mais aussi pensent que les peuples indigènes ne font que pêcher ou chasser des animaux qui sont en liberté. C'est ignorer que beaucoup, beaucoup de peuples indigènes dans leur communauté, ils ont déjà des petits élevages pour leur consommation personnelle. À partir du moment où ils élèvent, pour moi, c'est déjà clair que, oui, c'est du spécisme. Même si on peut avoir toutes sortes de théories pour le respect des animaux qui chassent, qui étaient en liberté avant, c'est aussi une vision romantisée des indigènes. Ils élèvent pour leur consommation personnelle. Pas du tout au même niveau, pas des vaches, pas du tout au même niveau que ce qu'on voit.
C'est
avec,
vraiment pas la priorité.
Non, mais on est plutôt d'accord pour dire que c'est quand même, il y a quand même des relations spécistes là-dedans, mais il faut savoir reconnaître la part de responsabilité dans le système spéciste de chaque personne. Et franchement, la part de responsabilité des peuples indigènes, ça peut attendre un changement radical de société avant qu'on commence à avoir des débats sur ça. Mais ça n'empêche pas de dire, moi je peux dire que oui, il y a des relations spécistes, mais c'est pas du tout nos ennemis. Alors que oui. Tu vas avoir beaucoup de personnes, même au Brésil, les véganes libéraux, qui vont avoir une façon de lutter contre le spécisme qui va reproduire du racisme. Par exemple, ces personnes-là vont dire, on choisit un but qui est facile à gagner, un objectif facile à atteindre, et on y va, et comme ça, on va monter petit à petit jusqu'à démanteler complètement le système spéciste. Ce petit objectif facile à atteindre, pour eux, normalement, ça veut dire plus de racisme et plus de colonialisme. Je vais te donner deux exemples concrets. Avec les peuples indigènes, par exemple, on va dire, oui, il faut aller dire aux peuples indigènes qu'il faut qu'ils plantent du manioc et du maïs, et pas... C'est facile,
véganiser.
Parce qu'il y en a moins, donc voilà. Non, l'exemple le plus clair de ça, par exemple, c'est ce qui se passe au Brésil avec les peuples noirs, le peuple noir. Il y a beaucoup de personnes au Brésil noires qui pratiquent des religions afro-brésiliennes. C'est des religions qui ont été mélangées un peu avec le christianisme, mais c'est très spécifique au Brésil. Les deux principales s'appellent Candomblé et Ubande. Et dans ces religions afro-brésiliennes, il y a beaucoup de chants, il y en a beaucoup qui sont encore dits en Yoruba, leur langue native. Il y a des sacrifices rituels, normalement des poules, très rarement une vache, par exemple, pas une vache, une chèvre, mais normalement c'est une poule. Donc pendant le rituel, la cérémonie, on va tuer une poule qui ensuite va être préparée. Il y a le sang qui est offert au dieu déesse et puis la chair va être consommée par les personnes qui sont là. Ça fait des années que justement le lobby de la Bible, on parlait du BBB, les évangéliques, essayent de faire, pas que eux, mais surtout eux, essayent de faire passer une loi qui interdit le sacrifice dans le cadre de rites religieux. Et donc ces véganes-là, libéraux, vont dire « Ah bah tiens, un objectif facile à atteindre, parce que oui, c'est, voilà, personne n'aime des... Ça fait trop, des sacrifices animaux, personne n'aime ça, c'est barbare, c'est rétrograde. Donc c'est facile à gagner. » Et du coup, on interdit ça dans ces religions-là, et voilà, c'est déjà des animaux de sauver, et ensuite on peut partir vers un truc plus grand. Sauf que les personnes qui portent ce projet de loi ne sont pas antispécistes, elles sont tout simplement racistes, et le but,
c'est... Elles instrumentalisent la question animale pour leur...
criminaliser davantage la population noire au Brésil, qui est déjà victime de discrimination en permanence. C'est le racisme structurel au Brésil, c'est énorme. Donc c'est des personnes qui veulent juste les marginaliser, les criminaliser encore plus. Donc c'est ça que je disais de choisir un objectif facile à atteindre. Parce que voilà, c'est des personnes faibles, ces personnes sont déjà par terre. Moi je vois aucun honneur, aucun mérite à taper des personnes qui sont déjà par terre ou à discriminer encore plus des personnes qui subissent déjà énormément de discrimination au nom de la lutte antispéciste. Et donc ces députés qui essayent de faire passer cette loi depuis des années, qui vont dire on va interdire parce que c'est barbare de tuer une poule pendant un rituel religieux, vont ensuite rentrer chez eux et manger du poulet qui a été tué par JBS ou une autre. Donc c'est quoi la différence ?
Et voter toutes les lois qui vont dans le sens du lobby agroalimentaire.
Bien sûr. C'est quoi la différence entre, si on parle de sacrifice rituel dans le cadre d'une religion, c'est quoi la différence entre ça et l'agneau de Pâques, le poisson de Pâques aussi au Brésil, la dinde de Noël? Et je pense que là, pour cet exemple, il y a un cas similaire ici en France. C'est vraiment pareil, c'est les gens qui vont, même les véganes, qui vont dénoncer le sacrifice du mouton de Haïd.
Dans la religion musulmane.
Pour dire, regardez, c'est horrible, c'est barbare. Ok, c'est quoi la différence entre ça et l'agneau de Pâques des chrétiens? Aucune. La seule différence, c'est que Haïd, c'est des musulmans, et la France est un pays extrêmement raciste et islamophobe. L'islamophobie ici, c'est incroyable. Donc on va créer des lois juste pour criminaliser encore plus une population extrêmement criminalisée ici et marginalisée. En France, les personnes musulmanes, au Brésil, les personnes noires. Et voir des personnes véganes qui soutiennent ce genre de loi, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste.
Oui, donc en fait le résultat, c'est que c'est pas ce type d'alliance-là, selon vous, qu'il faut forger pour faire avancer le projet antispéciste qui est, selon vous, un projet sans domination. Donc, il ne faut pas prendre la vague d'autres dominations.
On ne peut pas arriver... Moi, je suis anarchiste, donc je préfigure le monde dans lequel je veux vivre. Je ne peux pas imaginer que je vais attendre un monde sans domination. et que le chemin pour arriver à ce monde-là va être pavé de domination, où je vais renforcer d'autres dominations pour y arriver. Je ne peux pas avoir des pratiques qui renforcent la domination de certains groupes en me disant « Ah, mais ça va aider à libérer d'autres groupes. » Ça n'a jamais marché. Ça ne marchera jamais. On ne fait qu'aliéner, en fait, le peuple noir au Brésil du véganisme, par exemple, du mouvement antispéciste, et ici en France, les personnes musulmanes aussi, qui vont se dire « Ah bah c'est des islamophobes, hein, les véganes. »
Vous avez également été très impliqué dans des luttes locales, hein, en France, vous l'avez dit, où vous viviez depuis plusieurs années, et notamment dans une lutte dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais sur laquelle j'aimerais vous interroger, c'est la lutte pour défendre les jardins ouvriers à Aubervilliers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement les enjeux de cette lutte ?
Les jardins ouvriers d'Aubervilliers, les jardins ouvriers des vertus d'Aubervilliers, existent depuis presque 100 ans, et il y a des jardins ouvriers un peu partout en France. C'est extrêmement important pour les personnes qui vivent dans ces communautés. Je vais te parler d'Aubervilliers en particulier. C'est des personnes de la classe ouvrière, la plupart venues de l'immigration aussi. Donc il y a beaucoup de personnes racisées, migrantes, même première génération, qui cultivent ces parcelles. Donc c'est des parcelles. Et l'année dernière, non, il y a 2 ans à peu près, on a appris qu'une grosse partie de ces jardins était menacée par un projet de construction de solarium lié à une piscine d'entraînement olympique.
C'est quoi un solarium ?
Un solarium, c'est un espace où on va faire la bronzette. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, donc il allait y avoir aussi une sorte de centre aquatique avec spa, hammam. Voilà, mais en gros c'est ça, lié à ce projet de piscine d'entraînement olympique. Donc les Jeux Olympiques de Paris de 2024 sont en train de détruire. Alors, je pense que 80% des équipements sont construits dans le 93. Donc c'est les Jeux Olympiques de Paris, mais la destruction, elle va ailleurs. Donc c'est encore une fois les quartiers populaires qui sont déjà extrêmement bétonnés et qui voient leur peu d'espace vert être détruit et bétonné encore plus pour ces projets. Là. D'ailleurs, le solarium n'était même pas nécessaire pour la piscine. La piscine a été construite sur un parking à côté des jardins et le solarium allait prendre 19 parcelles du jardin. Et un collectif de défense des jardins s'est créé avec des personnes qui sont jardiniers et jardinières à l'intérieur des jardins, mais aussi juste des voisins voisines d'Aubervilliers, des personnes qui sont venues joindre la lutte, et nous, les BSP aussi, comme ça fait partie.
Donc les brigades de solidarité populaire.
Voilà, ça fait partie de nos activités.
Faut dire en fait que c'est des ouvriers, ouvrières, des personnes précaires qui vivent en grande partie de ce qu'elles cultivent dans ces jardins, sur leurs parcelles.
Je ne dirais pas qu'elles vivent de ce qu'elles cultivent, mais ça participe énormément à leur autonomie alimentaire et même sécurité alimentaire. Donc c'est des fois des personnes, la plupart sont assez âgées, il y en a beaucoup qui sont déjà à la retraite, qui vivent avec une toute petite retraite, des fois 800 euros par mois, et qui ont besoin de ces jardins, de ces parcelles, pour pouvoir mieux se nourrir. Donc on parlait tout à l'heure de comment les classes populaires ne mangent pas assez de fruits et légumes. Donc pour eux et elles, c'est aussi une façon d'améliorer leur alimentation. Et elles partagent les fruits du jardin avec leur famille aussi, des fois même les voisins, voisines. Et aussi, c'est des personnes qui vivent, beaucoup d'entre elles vivent dans des cités, dans des appartes tout petits. C'est leur maison de vacances, c'est leur...
Littéralement leur jardin.
Exactement. Et c'est tellement important pour leur bien-être.
Il y a des tables, ça peut être un espace de rencontre, de convivialité.
Le week-end, si tu vas au jardin, tu vois les jardiniers et jardinières déjeuner avec leur famille, tout le monde vient, c'est vraiment...
Tout le monde se croise parce que tout le monde s'aperçoit, on peut discuter avec les uns les autres.
On partage des plants et des graines.
C'est pas uniquement utilitaire en fait, c'est ce que vous dites.
C'est pas juste pour l'alimentation, même si c'est extrêmement important, c'est aussi leur espace de détente. Pour leur bien-être, pour leur santé mentale aussi, c'est extrêmement important. Donc on a gagné et perdu, parce que d'un côté, le projet de solarium ne va pas se faire, il est tombé, mais d'un autre côté, les 19 parcelles ont déjà été détruites. On a même fait une occupation qui a duré plusieurs mois en 2021. Donc on a occupé les parcelles qui allaient être détruites pour les défendre avec nos corps. Et finalement, on a été expulsés, les parcelles ont été détruites, la terre a été enlevée.
En fait, la construction avait commencé quand la bataille légale a été gagnée du côté de la défense des jardins, qui a finalement interdit le projet de construction, mais une fois que tout était déjà détruit.
Et surtout, on ne nous a pas rendus cette terre. Donc elle est toujours clôturée et on ne sait pas encore ce qu'elle va devenir. La mairie d'Aubervilliers, qui est une mairie de droite, hein, faut le dire, a parlé même à un moment de faire un jardin fermé au public. En gros, ils ne veulent pas nous rendre les terres parce que ça serait vraiment dire « bah, vous avez gagné ». Et l'idée, c'est de prendre ces terres et de faire des jardins communautaires ouverts à tout le monde. Parce que là, c'est des parcelles individuelles. Donc c'est cultivé par une famille à chaque fois. Ce n'est pas des jardins ouverts à tout le monde. Mais c'est pas fini parce qu'on a gagné la première lutte, mais maintenant les jardins sont menacés par un projet de gare aussi, avec un centre commercial, donc
du cadre du Grand Paris.
Grand Paris Express, oui. Et donc la lutte continue. Là, aujourd'hui, quand je sortirai d'ici, j'ai une réunion justement du collectif de défense des jardins et on a des nouvelles de la lutte, des bonnes nouvelles. Je ne vais pas encore dire, mais des bonnes nouvelles. Mais bon, la lutte continue parce qu'on nous a parlé aussi d'un troisième projet qui menace les jardins, et ça, on ne sait pas pour quand, un projet d'éco-quartier qui viendrait aussi détruire ces jardins nourriciers, ces terres qui sont les dernières terres agraires de la région, en fait, qui a toujours été des terres à vocation nourricière. Et donc, il y a ce projet aussi d'éco-quartier. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, combien de parcelles ça menace, mais c'est du greenwashing à fond où on va détruire des espaces verts pour construire des maisons, donc du béton, et ensuite on va, je sais pas, végétaliser les toits et appeler ça éco-quartier. Mais tu sens qu'il y a aussi un truc vraiment de racisme.
De classisme.
De classisme, et ces personnes racisées, migrantes, pauvres, elles n'ont pas droit à ça, en fait. Pourquoi on les laisserait avoir cet espace aussi beau? C'est magnifique. Donc on fait des visites de temps en temps, hein. Je vous invite à suivre la page. On est sur les réseaux sociaux aussi. De temps en temps, il y a des visites au jardin. C'est magnifique. C'est vraiment très beau. Il y a des roses, il y a des fleurs. Maintenant, surtout maintenant et en été, c'est magnifique. On entend les oiseaux. Il y a des animaux, même des espèces protégées qui vivent là-bas. Donc c'est incroyable d'être au milieu d'Aubervilliers, qui est quand même une ville extrêmement bétonisé. Je pense que l'OMS dit qu'il faut 10 mètres carrés de verdure par personne dans une ville pour que la qualité de vie soit correcte. À Aubervilliers, on est à 1 point quelques. Et on bétonne encore, on fait couler le béton encore. Et donc d'avoir cet espace vert avec tous ces oiseaux qui chantent, des hérissons, des roses partout, c'est magique. Et ça, la spéculation immobilière ne peut pas supporter. Hein. Tout ça pour des pauvres, tout ça pour des migrants. Mais je suis vraiment contente de faire partie de cette lutte parce que ça me rappelle aussi mes origines. La lutte pour la terre, c'est comme ça que j'ai commencé mon militantisme.
Vous y voyez les mêmes enjeux en fait, oui. De défense de la terre.
Oui. Et de la terre pour produire de la nourriture, des terres qui vont être rendues stériles pour faire quoi, un centre commercial? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Bon, je pense que aussi les liens que j'ai pu tisser avec les fermiers, enfin, tu vois, je veux dire agriculteurs, les jardiniers qui cultivent, c'est tellement précieux aussi pour moi. Et maintenant, avec les BSP, on a pu avoir accès à une parcelle qui est menacée par le projet de gare. Avec une autre association d'Aubervilliers aussi et des deux classes de maternelle, on partage une parcelle et donc notre collectif a commencé aussi à planter. Et ça, c'est une source de joie énorme. D'ailleurs, je recommande à tout le monde, j'ai un petit potager aussi dans mon jardin. J'ai commencé à planter il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Je suis fille de paysans et paysannes, mais bon, j'ai grandi dans une ville. Et waouh, ça a complètement changé ma vie. Et je recommande fortement à tout le monde de planter parce que c'est un peu l'antidote au désespoir. Et je pense que ça guérit aussi notre relation avec le reste du monde. Il faut vraiment aimer ce monde pour pouvoir se battre pour le préserver parce que c'est tellement dur. Les forces contre lesquelles on se bat sont tellement dures. Il y a tellement de violence autour de nous. On veut tellement qu'on soit malheureuse. Que je trouve que ça fait partie de la lutte, de trouver des sources de joie.
De cultiver littéralement la joie.
Voilà, les planter la joie. Et c'est une énorme source de joie. Ce matin même, je me suis levée, tous les jours je me lève et je vais dans mon potager, je dis bonjour à tout le monde, aux tomates, aux aubergines, je check les fleurs. Oh, encore une capucine qui est sortie. Et franchement, je ne sais pas si je pourrais tenir la lutte. J'ai dit, je suis militante, c'est pour la vie. Je sais que je vais pas voir la fin du spécisme de ma vie. Je suis une femme aussi. Est-ce que je vais voir la fin du patriarcat de ma vie? Et si j'avais pas cette joie quotidienne, je sais pas si je pourrais tenir. Mais c'est vraiment Angela Davis qui est, je pense que j'ai pas besoin de la présenter, incroyable, et qui est vegan, qui est antispéciste. C'est un peu dommage, elle en parle pas plus de ça, mais elle parle aussi de l'espoir comme une discipline révolutionnaire. Et pour moi, la joie et l'espoir, ça va ensemble. On peut pas avoir de l'espoir si on n'a pas des sources de joie tous les jours. Mmh. C'est juste trop difficile. Il faut être amoureuse de ce monde, il faut vraiment l'aimer pour pouvoir se battre pour le préserver. Et je pense qu'en potager, ça fait ça en fait. Ça te fait tomber amoureuse du monde.
Super. Sandra Guimaraes, est-ce que vous auriez trois recommandations à nous donner, s'il vous plaît?
Oui. Alors, en rapport avec tout ce qu'on a dit là aujourd'hui, ma première recommandation, c'est un documentaire qui s'appelle The Territory, donc le territoire en anglais, qui a été fait l'année dernière, je pense, sur la résistance d'un peuple indigène en Amazonie, justement, qui se bat pour défendre son territoire qui n'est pas encore démarqué. C'est le peuple Uruwewawaw, et aussi une femme militante qui a dédié toute sa vie à la protection de ces territoires et de ces personnes-là. Donc c'est vraiment touchant, c'est un peu dur à regarder, mais je pense que c'est nécessaire. J'ai des critiques, quelques critiques par rapport au documentaire, parce que je pense qu'on n'insiste pas assez sur le fait que la déforestation, c'est pour du bétail. Et aussi, on voit sur le film des petits éleveurs ou des petits producteurs, des petits fermiers qui essayent de prendre la terre des indigènes sans dire qu'eux, ils sont envoyés en premier, mais que derrière, il y a l'énorme lobby des éleveurs qui soutiennent, qui sponsorisent ce genre d'activité. On comprend, mais ça aurait pu être mieux expliqué, parce que ça fait un peu, si tu comprends pas beaucoup le contexte brésilien, ça fait un peu les petits fermiers contre les indigènes.
Oui.
Et c'est pas ça, c'est pas les petites personnes qui sont tout aussi exploitées qu'on voit sur le documentaire, qui essayent d'avoir accès à la terre, c'est des sans-terres qui essayent d'avoir l'accès à la terre. C'est pas un combat d'eux contre les indigènes. Eux, ils sont instrumentalisés par les grands propriétaires terriens et les grands éleveurs, qui les envoient en premier, parce qu'évidemment,
parce que c'est mieux de monter des populations dominées contre d'autres.
Déjà, et si la police vient, bah, c'est eux qui sont vraiment visibles.
Qui se font arrêter, même parfois.
Qui se font arrêter, et on voit pas que derrière, c'est vraiment le lobby de l'élevage. Mais c'est un film vraiment important à regarder, donc The Territory. J'avais une deuxième recommandation, mais finalement, j'ai pas trop parlé de ça, mais je voulais faire aussi des parallèles comme la lutte internationale pour moi. J'ai vécu longtemps en Palestine et j'ai pu voir que là-bas, les mécanismes de colonisation et surtout utiliser l'exploitation animale comme moyen d'extension territoriale sont exactement les mêmes qu'au Brésil. Donc, tu as la puissance coloniale, Israël, qui va voler des terres aux paysans, paysannes palestiniennes, ou plantées avant, et qui va mettre des fermes d'élevage, notamment, surtout élevage de poulets. Il y a un énorme élevage de poulets, une industrie d'élevage de poulets israélienne sur les territoires occupés. Et tu vois encore une fois les mêmes mécanismes qui se mettent en place. Et ensuite, la même colonisation de l'alimentation, parce que le peuple palestinien privé de ses fruits et légumes traditionnels sont obligés d'acheter ensuite ce que le marché israélien leur impose, dont le poulet bourré d'antibiotiques. Donc c'est vraiment pervers, mais c'est exactement les mêmes mécanismes que j'ai pu voir. Donc c'est la colonisation. C'est pas très créatif comme activité, la colonisation. Et j'ai fait partie d'un projet avec une photo journaliste française, un journaliste anglais et un photographe palestinien. Donc on est quatre, le team. On a fait un projet qui s'appelle Baladi, en arabe. Baladi, balad, c'est le pays. Baladi, c'est qui vient du pays. C'est le terme utilisé en arabe pour dire, en tout cas en Palestine, pour dire qu'un produit vient de la terre. C'est une graine paysanne qui a été cultivée sur les terres palestiniennes. Donc on va dans un marché en Palestine et t'entends les fermiers et fermières qui vendent leurs produits et qui disent Baladi, Baladi, ça c'est de l'aubergine Baladi, donc c'est cultivé par nous. Et donc le nom du projet est Baladi et on a documenté plusieurs pratiques de résistance à l'occupation israélienne à travers l'agriculture, mais aussi à travers la cuisine, surtout la cuisine végétarienne, vegan. qui est la cuisine de base. Donc aussi, on pense, quand on pense au Moyen-Orient, on pense beaucoup viande, beaucoup, beaucoup les brochettes et tout. Mais en fait, c'est une cuisine extrêmement riche en végétal et qui est aussi détruite dans le processus de colonisation, ou bien approprié, parce qu'Israël aussi s'approprie des plats palestiniens tout le temps. Donc ici en France, ici à Paris, tu peux aller dans un restaurant entre guillemets israélien et manger du houmous et des falafels. Donc il y a aussi cette appropriation de l'alimentation. Donc c'est un projet multimédia, il y a des vidéos, il y a des podcasts et il y a des textes et il y a un site internet. Donc c'est ma deuxième recommandation pour voir comment les mêmes pratiques sont, le colonialisme est encore très vivant et met en place les mêmes pratiques un peu partout, mais aussi pour les personnes véganes, parce que je sais que Israël a un peu la réputation d'être un paradis végane, donc il y a beaucoup...
Ils font du vegan washing en fait, ils utilisent aussi leur image de véganisme pour compenser presque ou faire oublier les aspects les plus critiquables
de leur politique. C'est exactement ça, c'est utiliser le véganisme comme une sorte... d'écran pour dire regardez comment on est progressiste, si nous on aime même les animaux, bah ça peut pas être vrai ce qu'on raconte, qu'on fait aux Palestiniens, Palestiniennes. Donc c'est instrumentaliser le mouvement vegan, la cause, pour des fins de propagande d'État et un État génocide aussi, un État qui pratique le nettoyage ethnique, qui pratique l'apartheid, et c'est vraiment triste de voir des personnes véganes tomber dans ce piège et aller à Tel Aviv, parce que c'est le paradis végan, mais le paradis végan pour qui? Parce que c'est le pré... il y a énormément d'élevage industriel en Israël, donc même pour les autres animaux, c'est pas le paradis. Et quand les bombes tombent à Gaza, elles épargnent pas les ânes et les vaches non plus, donc ça tue tout le monde. Donc c'est ma deuxième recommandation. La troisième, j'ai parlé un peu de Paulo Freire aujourd'hui, et c'est donc ce pédagogue brésilien qui m'inspire énormément dans mon militantisme, dans la lutte, qui vient de ma région, qui vient de Recife, du nord-est du Brésil. Il est mort en 97. Et il a écrit un livre, c'est son livre le plus connu, je pense, qui s'appelle « La pédagogie des opprimés ». Et c'est vraiment pour moi la base de l'éducation populaire et aussi la base du militantisme populaire pour moi. Donc il faut connaître ces idées pour pouvoir mettre en place une sorte de militantisme antispéciste qui soit vraiment auprès du peuple, qui comprenne tout ça et qui soit au plus proche des opprimés justement. Et c'est, je peux pas le recommander assez, ça a été traduit, c'est un livre qui a été écrit dans les années 60, en 68, donc ça a été traduit en français, on peut le trouver, même le PDF si on veut.
Je trouve ça intéressant que vous recommandiez cet ouvrage, La pédagogie des opprimés, parce qu'en fait on me l'a déjà opposé comme un argument contre l'antispécisme sur Instagram dans des échanges de commentaires, en disant apparemment, et alors moi je connais malheureusement pas assez bien pour savoir si c'est juste, peut-être vous allez me le dire, en disant que Paulo Freire défendrait l'idée que seuls les opprimés peuvent se libérer, et donc bah, comme les animaux n'ont pas les capacités forcément de se libérer eux-mêmes, elles-mêmes, même si elles résistent, et bah, l'antispécisme serait du coup pas une lutte légitime à mener par les humains.
Je suis outré d'apprendre ça. Je pense que Paulo Freire est en train de se retourner dans son tombeau s'il savait que sa pensée, qui était une pensée émancipatrice, est utilisée aujourd'hui pour justifier la domination des autres animaux. Il n'a jamais dit qu'il fallait dominer, au contraire. Quand il dit que la libération ou l'émancipation des opprimés doit être l'œuvre des opprimés, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre de tes oppresseurs qui viennent te sauver. Ça veut dire ça. Ça ne veut pas dire si on peut dominer et la personne ne peut pas se défendre, vas-y. Ce sera la même chose que défendre la domination des enfants pour dire bah ils peuvent pas se défendre, les enfants bah ils peuvent pas s'émanciper seuls, du coup on peut les dominer, on peut les exploiter. Donc si on fait la comparaison avec les enfants, tu vois l'absurdité de ça. Donc du coup l'idée de cette personne, c'est si on peut dominer et que la personne peut pas réagir, se défendre, se battre, donc c'est bon, c'est ça en fait. Et toute son œuvre va à l'opposé de ça. À l'opposé de ça, non. Il parlait d'éducation émancipatrice, il parlait aussi de ne pas... Il disait tout le temps que le monde n'est pas, il est en train d'être. Et il peut être changé, il doit être changé en permanence. C'était quelqu'un qui était assez ouvert aux critiques et qui avançait dans sa pensée. Vers la fin de sa vie, il a écrit un livre que je trouve encore plus important, mais ça n'a pas été traduit en français, c'est pour ça que je ne l'ai pas recommandé, qui s'appelle « La pédagogie de l'espoir », où il revient, ça c'était déjà les années 90, il revient sur la pédagogie des opprimés, et il corrige des choses, notamment son langage qui n'était pas inclusif, parce que beaucoup de femmes l'ont critiqué, il parlait toujours « l'homme, 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 la liberté de l'homme, l'homme doit s'émanciper », Et il a entendu les critiques des femmes et il a corrigé. Et à partir du milieu des années 70, à peu près, il a commencé à écrire l'homme et la femme ou bien les êtres humains à la place des hommes. Donc c'était pas quelqu'un qui était figé dans sa pensée, fermé aux critiques, c'était quelqu'un qui était ouvert. Sa pensée n'aurait aucune valeur si lui-même il était fermé à ça, parce qu'il encourageait les gens à être autonomes, à critiquer, à dévoiler le monde, questionner ses pratiques, demander d'où ça venait. Il nous invite tout le temps à questionner nos pratiques quotidiennes pour voir s'il n'y a pas des rapports de pouvoir et de domination dans nos pratiques. Il dit aussi une phrase que pour moi ça pourrait être aussi le mot d'ordre de l'antispécisme. Il dit « Je ne suis pas si tu n'es pas, surtout si je t'interdis d'être. » Et moi je pense qu'on ne peut pas être libre tant que les animaux ne sont pas libres. Et c'est exactement ce qu'il dit dans son travail. Donc ça me choque d'entendre ça. Il nous invitait tout le temps à changer le monde, à être des acteurs et actrices de changement. Il nous invitait aussi à rêver, et à rêver des utopies, des choses qu'on n'a pas encore vues. Et il dit, par exemple, « Il n'y a pas de changement sans rêve, comme il n'y a pas de rêve sans espoir. » L'espoir, c'est pas quelque chose de passif, où on est chez nous et on espère juste que ça va changer. Et c'est un peu notre lutte. On rêve d'un monde sans spécisme et on ne peut pas rêver de ce monde si on n'a pas l'espoir. Et comme je disais tout à l'heure, pour moi, ce qui nourrit l'espoir, c'est la joie. Donc ne soyez pas des militantes tristes. Avec les camarades BSP, j'ai appris un terme, les tototristes. Ne soyez pas des tototristes, les autonomes. Donc ne soyez pas des militantes tristes. Ne pensez pas qu'il faut être triste pour être militante, même si... c'est très dur et il faut vraiment cultiver la joie, cultiver un potager et cultiver la joie pour pouvoir nourrir l'espoir, parce que c'est l'espoir qui va nous faire rêver et on a besoin de rêver ce monde sans domination pour ensuite le mettre en pratique. Et est-ce que je suis la première personne qui vient du sud global que
il me semble, oui, dans le podcast.
Très bien. Donc, mon frère, on va faire de la réparation historique et tu vas me laisser faire 5 recommandations au lieu de 3. Voilà, ça s'appelle la réparation historique. 4e recommandation, un livre de Angela Davis que j'ai cité dans la conversation. Donc, une personne incroyable, féministe, militante, antispéciste. Et ce livre s'appelle... La liberté est une lutte constante. J'ai été choquée d'apprendre que la traduction française, c'est juste sur la liberté. Ok, mais c'est un livre qui s'appelle Sur la liberté. Elle est très impliquée aussi sur la cause palestinienne. Et donc, c'est encore une fois pour qu'on se rende compte à quel point toutes les luttes sont connectées. Et elle dit que la liberté est une lutte constante. Oui. Tant que les Palestiniens et Palestiniennes ne sont pas libres, nous ne le serons pas non plus. Comme tant que les animaux ne seront pas libres, nous ne le serons pas non plus. Donc c'est un livre, un petit livre, c'est des essais et une collection d'essais très 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 bien. Elle fait surtout des comparaisons entre la lutte des personnes noires aux États-Unis et la lutte des Palestiniens et Palestiniennes. Vraiment, c'est une personne, c'est une militante incroyable qui m'inspire énormément. Donc ce livre sur la liberté. Et parce que je parlais beaucoup de joie, et parce que je suis brésilienne et que la musique c'est très important, je pense qu'il manque un peu de musique dans notre militantisme en France.
Oui, absolument.
Il manque de joie, il faut un peu plus de joie et un peu plus de musique. Et j'aimerais recommander une chanson d'un chanteur de rap brésilien de São Paulo qui est noir, qui est incroyable, vraiment super bien, qui s'appelle Hémicide, donc tu peux la jouer après, mais pour qu'on se souvienne en fait qu'il faut des moments de joie, de bonheur, sinon on va pas tenir, pour vous encourager à mettre un peu plus de musique aussi dans votre lutte. Et sur la joie, je me suis souvenue dans la charte de Recife, c'est notre charte de principes de Louvre qu'on a écrit de façon collective à 200 mains. C'était un challenge, mais je suis très fière de cette charte où on explique que notre lutte antispéciste doit être anticapitaliste, antiraciste, féministe. Donc la charte se finit avec ceci. Nous croyons que au-delà du résultat final que nous souhaitons, qui est la liberté pour tous les êtres, il est important pour nous aussi de choisir des chemins qui valorisent la solidarité, l'écoute attentive, le dialogue, l'apprentissage et la construction. Avec la joie qui défie les injustices, avec des couleurs, des sons, des rythmes, des saveurs et des affects qui composent notre résistance créative.
C'est très beau. Merci beaucoup Sandra Guimarães.
Merci de m'avoir invité.
Thank you. J'ai coupé les micros. Après cet entretien de presque 3 heures, où le temps semblait suspendu, et Sandra Guimaraes m'a fait écouter la chanson qu'elle recommande en la mettant sur son téléphone. Et puis elle s'est levée dans le petit bureau qu'on occupait en guise de studio. Elle m'a tendu la main et on a dansé. C'était un magnifique moment que j'oublierai jamais, je crois. Et j'ai senti ce qu'elle voulait dire quand elle parlait de mettre de la joie dans nos luttes. Je souhaite qu'on puisse tous laisser résonner les expériences et les enseignements de Sandra, qu'elle a eu beaucoup de générosité à nous partager dans ces épisodes. Je sais que pour ma part, en tout cas, ça a fait bouger des choses dans ma compréhension de l'antispécisme. Et c'est pour ça que je fais comme un poisson dans l'eau. Alors j'espère sincèrement que ça vous fait aussi ressentir des choses similaires. On se retrouve très vite pour un prochain entretien. Bisous.